Nouveau printemps. La marquise de Beauchamp à Madame Dasque. Ma chère Noémie, j'ai aujourd'hui 42 ans, un peu plus que toi qui as à peine dépassé la quarantaine. J'ai 42 ans, je suis deux fois mère et une fois grand-mère. Me voici, comme toi-même, à cette étape de la vie où chaque mot qu'on lit ou qu'on entend, chaque regard jeté sur les êtres ou les objets qui nous entourent semble nous avertir que c'est fini des heures illusionnantes, qu'il faut faire résolument retraite dans la charité et dans la dévotion. Cependant, je ne suis ni triste ni chagrine. Cependant, je salue le premier soleil de mars avec la même joie qu'il y a 30 ans, lorsque, les mains enlaçant les tailles, nous allions ensemble guetter les bourgeons dans le parc du couvent. C'est vrai que j'ai vraiment 30 années de moins, vois-tu? C'est que je viens de redevenir jeune, plus jeune même qu'en ce temps-là. C'est que j'aime. Oui, j'aime. Oh, je t'en supplie, ne me raille pas de cette confidence, toi la seule à qui j'ose la faire, à qui j'ai besoin de la faire, toi la chère amie qui si longtemps a rêvé, souffert, aimé cœur à cœur avec moi. J'aime sérieusement et follement, j'aime avec la chaleur de tendresse et la fougue de désir que peuvent apporter le cœur et les sens les plus neufs à la première passion de jeunesse. Faut-il le dire, je m'aperçois que je n'ai jamais aimé qu'aujourd'hui. Cela s'est fait insensiblement et brusquement. Il me semble que cela date de jours très anciens et qu'en même temps, cela a éclaté comme un orage tout d'un coup. Certes, la première fois que j'ai vu ce jeune homme, c'était l'an dernier, au commencement des vacances, il arrivait à Beauchamp pour préparer mon fils à son examen de Saint-Cyr. L'on m'eut bien étonné en me disant qu'un jour, l'adolescent délicat, timide et grave que j'avais sous les yeux, me bouleverserait l'âme rien qu'en me regardant ou en me frôlant la main. Et cependant, dès cette minute de la présentation, j'ai senti qu'il existait entre l'étranger et moi une affinité secrète, un besoin de se connaître l'un et l'autre et de se pénétrer l'âme, pour ainsi dire. J'ai eu la certitude que nous serions amis, tendrement amis. Jamais alors je n'aurais pensé amant, car j'étais encore ce qu'on est convenu d'appeler une honnête femme. Tu le sais bien, toi. Oh, Noémie, ces journées de vacances de juillet à septembre brillent dans mon passé comme des lumières. Nous avions vite fait connaissance, Robert et moi. J'avais désarmé sa timidité par les menues paroles douces dont nous savons le secret, nous autres femmes, comme aussi nous connaissons les mots brefs qui glacent les courages des plus hardis et brise les tentatives au premier effort. 10 ans plus tôt, j'aurais sans doute joué la coquetterie avec cet enfant inexpérimenté. J'aurais cherché à allumer son désir, puis à le surexciter par de brusques froideurs et des refus savants, à l'amener à cet état de folie et d'exaspération qui nous donne à nous-mêmes la preuve de notre pouvoir. Je ne fais rien de tout cela, ma chère. Il me paraissait que le temps m'était mesuré, trop court pour en perdre les précieuses minutes à des feintes inutiles. Je manifestais avec abandon au précepteur de mon fils que je me plaisais auprès de lui, je ne lui dissimulais point que son visage, son esprit et le son même de sa voix m'étaient aimables, je l'engageais à me consacrer les instants que lui laissaient libres les leçons qu'il donnait à mon fils et les études qu'il poursuivait lui-même. S'il eût eu moins d'inexpérience ou plus de perversité, 20 fois dans ces 3 mois, il eût pu me prendre et je me serais abandonné avec reconnaissance. Il se contenta de se laisser aimer, indécis, pensif, heureux en somme. Alors, je l'adorais. Je l'adorais et ce fut moi qui devins inquiète, presque timide. M'aimait-il, lui? Certainement, il se plaisait à mes côtés. Il avait de la reconnaissance pour l'affection que je lui témoignais. Mais est-ce qu'il m'aimait comme doit aimer un amant? Me désirait-il, enfin? J'interrogeais, quand je me trouvais seul, tous les miroirs du château. J'essayais de juger mon visage avec indifférence et sincérité, comme on juge un visage étranger. Hélas, je me rendais compte que j'étais belle encore, mais d'une beauté meurtrie par les années, par la maternité, par les chagrins et les désillusions. Pourquoi ces meurtrissures nous marquent-elles d'abord au visage, ma chère? Pourquoi vieillissons-nous d'abord par cette portion de notre corps que les yeux des autres voient sans voile, tandis que nous sommes contraintes de cacher tout le reste, tout ce qui demeure parfois désirable, jeune, jusqu'au seuil de la vieillesse. Ces mots t'étonnent, dits par moi, par une femme demeurée rigoureusement honnête jusqu'à 40 ans passés et qui, jusque-là, s'est jalousement voilée, même aux yeux de son mari. Eh bien, telle était ma peur de ne point sembler jeune à Robert, tel était mon désir d'être désirée, que je souhaitais un hasard, lui découvrant ce que cache le mystère des robes et des corsages, ce corps qui, lui, n'avait pas vieilli, j'en étais sûre, qui, de la gorge aux chevilles, était plus souhaitable, plus fait pour l'amour, que le corps incertain d'une vierge. Oui, moi, honnête femme, moi, mère et grand-mère, j'ai usé d'artifices de courtisane pour dévoiler à Robert mes épaules, mes bras, ma poitrine. Je me suis laissé voir, sortant de l'eau, la flanelle claire du vêtement de bain collée sur ma chair et devenue transparente. Que m'importe d'avouer cela? Je l'aimais. Cependant, ces jours de vacances coulaient avec une rapidité effrayante. Déjà, septembre s'achevait. Mon fils venait d'être reçu à Saint-Cyr. Robert ne restait plus à Beauchamp que comme invité, comme ami. Il allait nous quitter et aucun aveu n'avait été échangé entre lui et moi. Quand je pensais que bientôt je ne le reverrais plus, que cette vie un instant vécue près de la mienne allait se continuer ailleurs, que bientôt d'autres femmes tiendraient cet enfant adoré dans leurs bras, auraient ses confidences et ses baisers, il me semblait que ma propre vie était près de finir, que je voyais mon cercueil ouvert devant moi. Je me consumais à chercher un moyen de le garder, ou du moins de le revoir, mais je ne trouvais rien. Eh bien, ce moyen existait. Il était simple entre tous, mais ce fut mon mari qui le trouva. Le 22 septembre, le marquis, qui se présentait à la députation dans notre arrondissement, par pur dévouement monarchique et par nécessité de situation, fut élu contre toute attente. Le premier contentement du succès amorti, quand nous en vîmes au projet de vie à Paris, il me prit à part et me dit « Ma chère amie, me voilà nommée, c'est fort bien. Je ne compte pas faire de bruit à la chambre, ni rivaliser avec nos amis Meun et Frépel. Mais, tout en se tenant à l'écart, le mandataire d'un arrondissement est forcé d'accomplir une certaine besogne, ne fût-ce que les travaux de commission et les relations avec ses électeurs. Or, je veux bien être député, mais je ne veux point, à mon âge, commencer à travailler dans des paperasses. Il me faut un secrétaire. Que diriez-vous du jeune Robert? Il est intelligent, laborieux, il n'a point encore de position. Celle que je lui offre peut lui être utile en lui créant des relations et je suis sûre qu'il s'en tirera parfaitement. » Il est des grâces d'état. Je fis bonne contenance. J'opposai même quelques objections. Le marquis les leva toutes et finit par me dire en me quittant « Vous connaissez ce garçon mieux que moi. Parlez-lui la première de ce projet et tâchez qu'il accepte. » Il était alors 10h30 du soir. J'avais le cœur si plein et si bouleversé que je ne pus tenir au château. Je jetai un châle sur mes épaules, je descendis dans le parc, tout obscur, tout silencieux. Dès que je fus dehors, je levai les yeux. Une lumière brillait derrière les vitres de la chambre habitée par Robert. Il ne dormait pas encore. Brusquement, une idée me vint et tout de suite, elle me posséda. Monter jusqu'à cette chambre, voir le cher enfant, sans retard, lui soumettre le projet du marquis, obtenir son assentiment. Toutes les objections de convenance, toutes les révoltes de pudeur, je les repoussai. L'instant d'après, je frappais à sa porte. Il dit, entrez, d'une voix distraite, croyant sans doute que c'était quelque domestique. Et j'entrai. Mais à peine le seuil franchi, quand j'aperçus Robert assis devant sa table de travail, vêtu seulement d'une chemise de nuit mal fermée et d'un pantalon, son adorable visage éclairé par la lampe, mon courage m'abandonna. L'étrangeté, l'impudeur de ma démarche m'apparurent. Je sentis que le plancher fuyait sous mes pieds. Mes doigts se crispèrent au chambranle et je serais tombé si Robert ne s'était élancé vers moi et ne m'avait reçu dans ses bras. Oh, le réveil après cet évanouissement! Robert, agenouillé près de moi, meurtrissant ses doigts aux agrafes de mon corset, ses cheveux dorés tout près de mes lèvres. Je demeurai quelques secondes ainsi, sans bouger, me laissant faire. Puis je saisis la tête blonde, je la relevai doucement, je baisai les yeux frémissants, la bouche entr'ouverte. Et comme il me rendait mes baisers, je murmurai à son oreille « Que pensez-vous de moi maintenant ?» Il me répondit « Je vous adore, ne me repoussez pas, je vous en supplie. » « Va, je n'ai guère résisté. Tout ce qu'il a imploré de moi, je le lui ai donné sans lutte dans cette divine nuit de tendresse. » Celles qui dosent leur abandon, qui cèdent par étapes, celles-là n'aiment pas véritablement. Savais-je seulement, en de telles minutes, où regarder ses yeux, où ses lèvres se posaient? J'oubliais tout, sinon que mon rêve le plus ardent était exaucé, que Robert me désirait, m'aimait, me possédait. Et ce ne fut qu'à l'heure où il fallut nous séparer que je songeais à lui transmettre la proposition du marquis. Il a accepté par tendresse pour moi. Il nous a suivis à Paris. Et voilà, ce rêve dure depuis plus de 4 mois et mon bonheur n'a pas diminué et il me semble que je suis toujours autant aimée. Robert et moi, nous vivons sous le même toit comme vivraient des amants libres ou des époux. Je t'entends protester, crier à l'immoralité. Tu te demandes si c'est bien moi, moi qui n'ai jamais eu d'amant à l'heure où j'étais le plus courtisé, moi qui me livre ainsi, dans ma maison, à un enfant à peine majeur. Oui, c'est moi. Je le fais et n'en ai point de remords. J'aimerais assez Robert pour affronter à cause de lui le mépris et le scandale du monde. Mais, grâce à Dieu, je ne fais tort ni honte à personne. Mes enfants sont loin de moi. Au temps où je les avais à mes côtés, je ne leur ai jamais donné que de chastes exemples. Mon mari, depuis 10 ans, ne m'est qu'un ami discret et dévoué. Je ne lui vole donc rien de ce qui lui est dû. Quant à l'adolescent dont je suis la maîtresse, je lui donne le bien le plus désirable, le souvenir d'un amour sincère, désintéressé, absolu, c'est-à-dire de quoi tremper son cœur pour la vie, de quoi lui préparer un refuge pour toutes les mauvaises heures de l'avenir. Non, je n'ai point de remords, et je m'en veux d'avoir tout à l'heure cherché des excuses. « Je l'adore, te dis-je !»